Angers, 101.5 FM.
Pierre Benoît vous présente la chronique de Clic-Clac Topette. Août 1944, les Américains sont devant Angers pour libérer la ville de l'occupation nazie. Depuis le débarquement du 6 juin, les Alliés s'enlisent dans le bocage normand. Le pied est posé sur le continent, mais la partie est encore loin d'être gagnée. La Wehrmacht fait bloc et empêche toute progression vers le reste de la France. Mais fin juillet, le vent tourne brusquement et les blindés du général Patton parviennent à s'infiltrer dans une brèche au nord de la Bretagne. Le temps presse et il est impératif de conserver cet avantage. Leur mission est d'atteindre la Loire avant de remonter en Normandie pour prendre à revers les troupes d'Hitler. Toutes les grandes villes de l'Ouest sont libérées une à une. Toutes ? Non. Nantes et Angers font encore de la résistance et risquent de mettre à péril le succès des opérations. Le 8 août, les GIs sont dans l'impasse. Le nord d'Angers est absolument imprenable et des tranchées anti-chars empêchent les blindés d'avancer. Une opération de contournement par le sud est envisagée, mais les ponts de Bushmen ont été coupés par l'ennemi. Même une violente attaque de front ne garantirait pas à 100% un succès et les Américains ne veulent pas s'y résoudre. En fait, il leur reste une option, c'est celle qui va rentrer dans l'histoire. Mais ils l'ignorent encore, ce serait de passer par le pont de Prignes. Découvrez avec Clic-Clac comment la ligne ferroviaire du Petit Anjou et un jeune résistant angevin vont changer le cours de l'histoire en seulement quelques heures.
Bonjour, moi c'est Clic-Clac. Je suis curieux de tout et j'aime l'aventure. Un jour, dans le grenier, j'ai découvert une très vieille carte postale en noir et blanc. Je l'ai retournée et en lisant ce qui était écrit, c'est comme si j'avais voyagé dans le temps. Depuis, je prends ma bicyclette, mon appareil photo et j'explore l'Anjou pour découvrir des lieux, des histoires surprenantes pour créer mes propres cartes postales. Je prends tellement de photos que tous les copains m'appellent Clic-Clac. Ils disent que c'est le bruit de mon appareil. Du coup, moi je dis que c'est aussi le bruit du temps et des histoires qui passent. Aujourd'hui, direction le pont de Prunier.
Le pont de Prunier se trouve, comme son nom l'indique, sur la Maine, à hauteur du petit village de Prunier, à mi-distance entre Bushmen et Angers. On y accède facilement depuis le lycée du Fresne en descendant vers les basses vallées angevines, ou bien alors par le chemin de halage qui longe le lac de Maine. Pour se rendre compte de son aspect, il faut imaginer la tour Eiffel en vert pastel et de forme rectiligne horizontale qui part d'une rive jusqu'à l'autre. La définition d'un pont en fait. Il a été construit en 1908 et il permettait au train d'enjamber la Maine pour retrouver Angers depuis l'ouest du département. Aujourd'hui, c'est un pont réservé aux loisirs et on y voit beaucoup de marcheurs et de joggeurs profitant de la vue sur la rivière, qui offre des crues splendides en hiver. Et il arrive même qu'en été, les lycéens se mettent au défi de sauter jusque dans l'eau, ce qui n'est vraiment pas conseillé vu la hauteur. Et cette légende, celle qui dit qu'il y aurait des pieux en bois dans le fond de l'eau. Ce serait dommage de venir s'empaler dans un si bel endroit. Les locomotives se sont tues à la fin des années 50 et finalement le pont a perdu toute son utilité avec la fermeture du Petit Anjou. Mais le pont de Prunier revêt une symbolique particulière aux yeux des Angevins. S'il est possible pour eux de continuer à admirer leur jolie ville, c'est uniquement grâce au pont de Prunier. Un pont sur lequel de jeunes hommes ont risqué leur vie pour le franchir à toute allure et essayer d'atteindre l'autre rive. D'ailleurs, en voilà un qui déboule à toute allure depuis le lycée du Fresne. C'est Clic-Clac avec son appareil photo en bandoulière et qui tient son béret avec une main.
Oh là !
Il freine un grand coup avant l'entrée du pont. Il vient déjà d'apercevoir un indice.
J'en étais sûr que ce vieux pont avait quelque chose à voir avec l'histoire.
Il se tient devant une sorte de stèle en pierre où une plaque noire porte des inscriptions en lettres dorées.
Ce pont, clé de la libération d'Angers, a été pris le 8 août 1944 par la 3RD Platoon L Compagnie 3RD Bataillon du 11TH Infanterie Régiment. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je comprends rien, Charabia. Bon, 1944, c'est la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est certain. Le reste, je sais pas. Ça doit être de l'anglais.
Clic-Clac prend note dans son carnet et s'engage sur le pont.
C'est très joli ici. La Maine en dessous est vraiment splendide. C'est drôle qu'il y ait ce pont. Les gens se déplacent à pied dessus. Je suis sûre qu'il a servi à autre chose avant.
Il profite un peu de la vue pour faire quelques clichés et rejoint l'autre rive du côté de Prunier. Là, il tombe de nouveau nez à nez avec des stèles commémoratives.
Encore des indices!
Il se rapproche du monument. On dirait des menhirs en ardoise. Il y en a deux sur un petit sentier qui grimpe le coteau. Clic-Clac lit la plaque qui les accompagne.
Le 8 août 1944, le résistant angevin Louis Bordier guide la 2e régiment de la 5e DIUS vers le pont de Prunier. Le 8 août 1944, encore! Il s'est donc passé quelque chose avec ce pont et ses numéros, on dirait des noms militaires. Ça voudrait donc dire que les Américains seraient venus à Angers en 44 ?
Il obtient sa réponse presque immédiatement en se retournant. En haut de l'armature métallique, en lettres d'or, est écrit
« La 5e division d'infanterie de l'armée américaine a franchi la Maine sur ce pont le 8 août 1944 pour libérer Angers. » C'est incroyable ! Les Américains sont venus à Prunier pendant la Deuxième Guerre ! Il faut que j'aille voir Madame Pascoe immédiatement !
Et le voilà qui pédale à fond pour retraverser le pont vers le Fresne, avec son appareil photo qui flotte à son cou et sa main qui agrippe encore son béret. Il arrive chez Madame Pascoe en un rien de temps, et comme à son habitude, entre sans prévenir pour l'interpeller.
Bonjour madame, j'ai des questions urgentes à vous poser.
Bonjour Clic-Clac, dis-moi, pourquoi sont-elles urgentes? Serait-ce pour un contrôle que tu aurais oublié de réviser?
Non, elles sont pas vraiment urgentes, mais je voudrais juste savoir.
Dis-moi tout.
Eh bien, je suis allée au pont de Prunier et je ne savais pas que les Américains étaient venus jusqu'à Angers pendant la Deuxième Guerre. Et en plus, qu'il y avait des résistants dans le Maine-et-Loire. Il y a une stèle qui fait référence à Louis Bouvier.
Bordier, Louis Bordier, Clic-Clac. C'est lui qui a participé à la libération d'Angers après le débarquement.
Les Alliés sont venus libérer Angers des Allemands juste après le débarquement?
Oui, mais laisse-moi t'expliquer comment ça s'est passé.
Je vous écoute, madame.
En 1944, l'Europe tout entière est sous le joug de l'Allemagne nazie. Et il est devenu impératif pour les Alliés d'intervenir et de faire tomber le Troisième Reich d'Hitler. Il existe déjà un front à l'Est, en Russie, et depuis quelques mois, un débarquement est prévu en France pour ouvrir un nouveau front à l'Ouest et étirer les forces allemandes.
C'est le débarquement du 6 juin en Normandie.
Tout à fait. Et le nom de code de cette opération, c'est Overland, le plus grand débarquement armé jamais réalisé dans toute l'histoire. Avec près d'1,5 million d'hommes qui vont devoir mettre le pied sur le continent. Les avions, les vivres, les armes, les munitions.
Aucune chance pour que les Allemands résistent.
Si, justement. Contrairement à ce qu'on imagine, Overland n'est qu'un demi-succès au soir du 6 juin. Car, bien que les Alliés aient posé le pied sur les plages, la plupart des villes qu'ils cherchaient à atteindre sont restées à l'ennemi. Et une horrible bataille de fourrés commence. La prise de chaque village, chaque pont, chaque carrefour, chaque maison même, demande l'élaboration d'un plan d'attaque méticuleux et la nouvelle position acquise est bien souvent perdue le lendemain.
Je crois me rappeler, c'est ce que les historiens appellent la bataille des haies.
Oui, c'est ça, Clic-Clac. Et cette phase de la guerre use les esprits et l'armée américaine fait du surplace. Plus d'un mois après le D-Day, les forces commencent à ralentir et les Allemands risquent de reprendre l'avantage.
Il faut donc que les Alliés réagissent.
C'est exactement ce qu'ils décident de faire le 25 juillet 1944 avec Spring et Cobra.
Hein ? Qu'est-ce que c'est ?
Spring et Cobra, ce sont les noms de deux opérations d'envergure qui visent à percer les lignes allemandes. Spring est confié aux Canadiens, au sud de Caen, pour réaliser une manœuvre de diversion.
Pendant que les Américains mettent en place Cobra.
Exactement. Ils veulent absolument s'emparer de la ville d'Avranches.
Pourquoi ?
Parce que la prise d'Avranches permettrait d'ouvrir la route vers la Bretagne et tous les ports maritimes.
La Bretagne et l'Ouest d'une manière générale. Les Alliés piétinent en Normandie depuis le débarquement. Et il est primordial d'en sortir pour assurer la progression vers Berlin et ainsi confirmer le succès du débarquement du 6 juin. Après avoir arrosé les lignes ennemies de plus de 4000 tonnes de bombes, le 30 juillet, les Américains ouvrent enfin cette brèche jusqu'à Avranches. Très rapidement, les blindés du général Patton s'engouffrent dans l'ouest de la France avec la Loire comme objectif. En moins d'une semaine, le 7 août, ils se retrouvent aux portes d'Angers. Mais la doute est imprenable. Les Allemands ont creusé partout des tranchées anti-chars et la Wehrmacht offre une solide résistance qui rend la ville impénétrable. Les GIs tentent d'abord de contourner au sud par Bushman, mais ils commettent l'erreur de différer leur attaque, ce qui laisse le temps aux Allemands de faire couler les ponts qui enjambent la Maine. Les Alliés sont au pied du mur. S'ils veulent prendre Angers, ils vont devoir attaquer de front. Ils envisagent donc d'envoyer un tapis de bombes sur la ville pour déloger l'ennemi.
Non, ils ne vont pas détruire Angers!
Non, rassure-toi, Clic-Clac. Il leur reste une option pour passer au sud. Mais ils l'ignorent encore. Et c'est un simple appel téléphonique sur la ligne du Petit Anjou qui va permettre de guider les Américains vers la victoire.
Le Petit Anjou ?
Oui, le Petit Anjou. Écoute, va voir à la gare de La Roche, à Saint-Jean-d'Inière, et demande Louison, c'est un ami à moi. Il sera heureux de t'expliquer tout ça. Je peux pas te consacrer plus de temps, j'ai encore tous mes cours à préparer.
Louison, à la gare de Saint-Jean-d'Inière. C'est noté, merci beaucoup.
Clic-Clac arrive donc à la gare de La Roche, de Saint-Jean-d'Inière. À l'entrée de la gare, habillé comme un contrôleur de l'époque, se tient un homme. C'est Louison.
Clic-Clac, c'est toi ?
Oui, comment vous savez qui je suis?
Je me présente, je m'appelle Louison.
Enchanté. C'est quoi cet endroit?
Ici, c'est l'association des amis du Petit Anjou. On concentre là toutes les informations, les objets, les vieilles cartes postales qui font référence au Petit Anjou. Et souvent même, on fait des reconstitutions.
Oh, c'est trop bien ça! Mais c'est quoi le Petit Anjou?
Ah, c'est le nom d'un ancien réseau de voies ferrées qui parcourait tout le département au début du siècle dernier. C'était un peu comme le TER de l'époque. Ici, tu te trouves à la gare de La Roche, qui était sur la ligne entre Candé et Angers, et qui passait la Maine au niveau de Prunier.
Louison lui tend une vieille carte postale sur laquelle on aperçoit des soldats en noir et blanc près d'un pont dont les rails sont entassés sur le côté.
C'est le pont de Prunier?
Oui, exactement. Et c'est lui qui a permis de libérer Angers.
Je comprends pas. Madame Pascot m'a dit que c'était un coup de téléphone qui avait permis aux Américains de franchir le pont.
En effet, le matin du 8 août 1944, pendant que les Alliés cherchaient désespérément un moyen de franchir la Maine pour contourner Angers au sud, l'hôtesse de gare à Candé a reçu un coup de téléphone pour avertir qu'un autorail avait disparu. Celui qui devait entrer en ville n'était jamais arrivé.
Comment un train qui disparaît aurait pu aider les Américains à passer la Maine?
C'est simple. La gare de Candé a contacté toutes les autres gares de la ligne pour savoir si le train était passé. Et l'hôtesse de la gare de La Roche, où nous sommes, confirmait que oui, il était bien passé.
Il avait donc disparu entre Saint-Jean-Lignières et Angers.
Oui, et juste après avoir raccroché le téléphone, elle prévient un résistant français du nom de Louis Bordier que le train est peut-être bloqué parce que les Allemands ont fait sauter le pont de Prunier. Mais Louis préfère s'en assurer et se rend sur place. Et là, surprise!
Quoi?
La locomotive est arrêtée, certes, mais les passagers sont à pied pour franchir le pont.
Donc, il est encore debout et Louis Bordier va chercher les Américains pour leur dire.
C'est à peu près ça. Sauf qu'en arrivant, les GIs s'aperçoivent qu'un wagon chargé d'explosifs bloque le chemin et que les Allemands prévoient de tout couler.
Comment ils vont faire alors?
Il est déjà 17h, donc les Américains décident de passer à l'action.
Ils attaquent!
Pour connaître la suite, je te propose de lire cet article. Ça a été écrit quelques jours après la prise du pont, dans le Petit Courrier. C'est l'ancêtre du Courrier de l'Ouest.
Clic-clac saisit le vieux journal et commence sa lecture. Angers est libéré! Hier, jeudi 10 août, les Allemands se sont repliés au pont de Cé après avoir fait sauter le pont d'Umnacus, symbole de la résistance en dégave devant l'empereur César. L'histoire s'écrit une nouvelle fois sur la Loire qui sépare désormais le nord du département, libéré, du sud, encore occupé par les nazis. Les presses du Petit Courrier se sont mises en branle tout au long de la nuit pour vous faire revivre ces trois derniers jours, intenses et palpitants, qui ont vu l'histoire se jouer en Anjou, désormais presque libre. Alphonse de Beauregard pour le compte du Petit Courrier. Il est déjà 17h ce mardi 8 août 1944. Les GIs, guidés par le jeune résistant angevin Louis Bordier, arrivent devant le pont de Prunier, intact certes, mais qui porte un wagon chargé d'explosifs prêt à le détruire. Il serait fort dommageable aux Américains de répéter l'erreur de la veille à Bushmen et d'attendre le lendemain pour s'emparer du pont. En effet, le 7 au soir, les Alliés avaient choisi d'attendre le matin suivant pour s'emparer de Bushmen. Malheureusement pour eux, les Allemands firent sauter le pont dès l'aube du 8. L'assaut est donc lancé dans la foulée, et les sentinelles allemandes, qui devaient activer les charges explosives, sont très rapidement neutralisées. Les GIs s'infiltrent par le pont pour rejoindre la rive gauche de la Maine, pendant que l'artillerie américaine vient en renfort sur les coteaux de Prunier pour soutenir l'infanterie sur les plaines de la Baumette. Jusque-là, dans l'incertitude des positions ennemies, les Alliés font face à une résistance farouche de la part des Allemands. 300 SS remontés du sud de la France à bicyclette sont venus gonfler les effectifs de défense. La campagne de Saint-Jean devient un champ de bataille féroce, avec des tirs d'artillerie de part et d'autre. Le couvent de la Baumette et le château du Fresne offrent une impressionnante résistance et vont demander toute la journée du 9 pour tomber. En parallèle, le quartier de la Doutre commence lui aussi à céder, et ce depuis la prise du pont de Prunier. Les combats en ville sont âpres et s'intensifient, les accros sont incessants, jour et nuit. Le 10 août, à 4h du matin, les Allemands font sauter les trois ponts d'Angers. Ils reculent et les Américains, accompagnés des FFI, franchissent la Maine dans l'après-midi. En fin de journée, Angers est libre et les Allemands sont repoussés jusqu'au pont de Cé. Avec Nantes qui tombe le 12 août 1944 et la libération d'Angers le 11, les blindés de Patton remontent en Normandie pour prendre en tenaille la Wehrmacht. Clic-clac en vient presque à penser que...
Louis Bordier a permis aux Américains de vaincre les Allemands en Normandie.
Aujourd'hui, ce sont les Instagrammeurs qui mitraillent le pont de Prunier. Et notre ami n'est pas en reste. Un clic ici, puis un clic par là, et plein de photos viennent s'ajouter à sa collection.
Daubette !
chronique écrite et réalisée par Pierre Benoît. Merci aux participants qui ont prêté leur voix, Sophie, Marceau, Blandine et Thomas. Rendez-vous lundi dans 2 semaines à 13h pour une nouvelle chronique de Clic-Clac-Topette sur le 101.5.